Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto le dimanche de 11h à midi sur Radio Campus Lille. Avec aujourd'hui un sommaire essentiellement consacré à la moto tout terrain avec le grand retour très remarqué de notre spécialiste de cette discipline, Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Bonjour la biche, en effet c'est le retour. Bonjour
Laurent, technicien. Notre technicien, bonjour, tu veux technicien. Dire bonjour à tout le monde.
Profite. J'ai fait un stage de... Tu sais, la vieillesse, c'est comme ça.
D'accord, moi j'ai compris. Écoute, alors on va parler, comme je viens de le dire dans le sommaire, du classement, des infos, du classement mondial en MX1, MX2, MX3.
Enduro, trial, enfin tout ce qui concerne la moto tout terrain.
Et c'est bientôt la reprise des courses de sable. Le calendrier doit être sorti.
Je ne crois que... Aujourd'hui, il doit y avoir une course à Formaron. Enfin, je ne suis pas sûr. Mais les championnats de France de course en sable va débuter d'ici sous peu.
Guy, je te propose de présenter notre invité, Philippe Tillemans, qui était dimanche dernier à la finale du championnat du monde d'enduro à Mende, en une finale qui était organisée par le motoclub lausérien.
En effet, Philippe Tillemans, c'est un grand spécialiste du tout-terrain, ex-crossman. C'est un gars qui n'hésite pas à faire 1000 km en moto.
Ah oui, parce que Mende, c'est après Clermont-Ferrand, ça, sur le plateau là-bas lausérien.
Oui, largement en dessous.
Enfin,
ouais. C'est sur le plateau lausérien.
Ouais.
Donc,
une belle région.
Magnifique, oui. Surtout avec le temps qu'on a eu la semaine dernière.
Très verte.
On va pas se plaindre.
Ça va, il a fait beau.
Très beau, 26 degrés.
Ah, c'était bien. Ouais.
Et en plus, il faudra signaler que Philippe n'a pas serré la poigne au nouveau ministre des Sports, Douillet, qui était présent d'ailleurs en Lozère. Hein.
Non.
Une semaine après sa nomination.
Tu l'as échappé belle.
Non, mais je l'ai vu, mais c'est pas après lui que je vais courir, c'est certain. Hein.
D'ailleurs, pour la petite histoire, aujourd'hui, il est en Nouvelle-Zélande pour encourager l'équipe de France. D'ailleurs, l'équipe de France a gagné grâce à lui, parce que vu sa carrure, il a été pilier de l'équipe.
Thank you.
crawfish on my shoulder, yeah, looking dead at you.
L'info moto, c'est le dimanche de 11h à midi sur Radio Campus Lille 106,6, avec aujourd'hui une émission consacrée avant tout à la moto tout terrain, au motocross et autres particularités et de cette discipline sportive qui est très, très, on va dire, physique. Hein.
Très physique.
Il faut avoir une musculature, une endurance, une condition pour pouvoir faire ce sport, ces sports.
Et pas avoir peur de la pluie.
Et pas avoir peur de la pluie et de la boue.
Et de la boue.
Hein, pour un cross.
Alors, cette année, il y a quand même une moisson assez importante de champions du monde et champions en championnat MX 1, 2 et 3 des Français. D'abord, en MX 1, vice-champion du monde, c'est un Français, Steve Frossard sur Yamaha. Il s'est blessé. Deux compétitions avant la fin, assez sérieusement, parce que bon, il crachait du sang, poumons touchés, etc. Mais il était sélectionné pour le motocross des nations et il a été remplacé par Christophe Pourcel en dernière minute. Mais bon, son état va beaucoup mieux. En MX2, la quatrième position, Gauthier Paulin sur Yamaha. Et en MX3, un nordiste qui est vice-champion du monde dans cette catégorie, c'est Milko Potisek, le cousin du regretté Timothée. Donc en MX1, c'est le cinquième titre pour l'Italien Antonio Cairoli. Cairoli, d'ailleurs, qui n'a pas disputé la dernière épreuve qui s'est disputée en Italie à cause sa maman est décédée, donc... c'était le jour même, donc pas de Cairoli ce jour-là. Steve Frossard, qui fait second, a été à un moment leader du championnat du monde MX1. Alors, Cocorico pour la France. Ensuite, en troisième position, Clément Dessalles, c'est un Belge, mais c'est pas un Flamand, hein, c'est un Wallon. Mais malheureusement, il s'est aussi blessé dans une course nationale en Belgique, à l'épaule. Il n'a pas terminé les deux dernières épreuves. En quatrième position, Eugénie Borichev, c'est un Russe. Et il ne faut pas oublier que les Russes...
Ça, tu les aimes bien, ceux-là. Hein.
Ah, les Russes, hein, oui. Hein,
parce que les Polacs, toujours... les Russes...
Parce qu'ils ont toujours de la vodka dans leur valise. C'est pour ça. Tu sais, la troisième mi-temps, elle est...
Ah, aussi, là-bas, en moto aussi, en moto.
Comme en rugby, pareil.
Ah, pareil. Ah, d'accord.
Pareil. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier que des Russes, dans les années 70, ont été champions du monde avec Gudadi Moseyev, qui a été quand même trois fois champion du monde... Trois fois champion du monde. Et aussi à signaler le retour de Christophe Pourcel, qui à un moment était parti en Amérique courir là-bas, mais bon, ça n'a pas pris, la sauce n'a pas pris. Il est revenu disputer les quatre derniers Grands Prix et avec trois victoires à la clé.
Et là, une question, Guy, le championnat est terminé, le championnat du monde est terminé.
Le championnat du monde est terminé.
Parce qu'on on arrive en fin de saison, hein, tous les championnats
sont clos.
Que ce soit la vitesse, que ce soit sur route ou sur en tout terrain.
Voilà.
Ça se termine.
Sauf peut-être l'enduro, il y a encore une manche au Portugal où je me tourne vers Christophe.
Oui, notre Christophe. Monsieur, Philippe. comment notre dictionnaire.
Dictionnaire.
Normalement, le championnat du monde d'enduro est terminé.
Est terminé, puisque
terminé, façon, c'était la dernière.
C'était manche, la dernière, la, dimanche dernier, amende. Bon,
c'est ça, exactement.
Shorty, don't need you no more. Work 20 years, give it all you got. What's a man supposed to do? Lie, cheat, and run. In the morning, go down to the store. Prices are getting higher. I can't take it no more. Got my guitar, try to bend a note. I look at my neck and feel my strength.
L'info moto, c'est le dimanche 11h midi sur Radio Campus Lille 106,6. Aujourd'hui avec notre ami Guy Pilarzic, notre spécialiste du motocross. Et on a parlé du MXE1, qu'il faut rappeler la catégorie. Hein,
qui était l'ex.
C'est pour ceux qui ne sont pas vraiment au parfum du motocross.
Hein, MX1, donc c'était l'ex catégorie 250. pour résumer.
En course sur route, maintenant, on va mettre, il y aura plus de 0,25, ce sera les 250. Après, il y a la catégorie qui remplace la 2,5, c'est la catégorie, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, tout pour brouiller les pistes.
Et puis voilà. Et donc, en motocross, mais ça fait longtemps que ça existe, cette domination là
de MX1
et 2 et 3.
Ben, c'est-à-dire, c'est avec l'arrivée des 4 temps, principalement. Parce que les 4 temps ont une cylindrée supérieure que les 2 temps, 125 par exemple. En 125, le 4 temps va jusqu'à la cylindrée 250, tu vois.
Et parce qu'on peut pas obtenir autant de puissance avec la même cylindrée sur un 4 temps que sur un 2 temps.
Voilà.
Et voilà.
Voilà, voilà.
Donc on est obligé d'augmenter la cylindrée sur un 4 temps.
Et on met pas d'huile de ricin.
Et on met pas d'huile dans les, dans sur un 4 temps. Voilà. Enfin, si on en met, mais pas dans le réservoir. Voilà. Donc on va continuer avec ce classement donc international. Donc le championnat qui vient juste de se terminer, Guy, hein.
En effet,
on parle maintenant MX2.
MX2, donc, classe 125, et c'est un Allemand, Ken Rosen sur KTM qui coiffe la couronne mondiale, et c'est le plus jeune pilote titré à 17 ans. L'année dernière, il était vice-champion du monde, cette année, champion du monde, mais toutefois, il a dû livrer une bataille face au Hollandais Jeffrey Herling qui était dans le même team, KTM, tu vois, 19 petits points séparent les deux pilotes. À la 10e place, nous trouvons un Français, Gauthier Paulin, qui roule sur Yamaha. Il était 10e en 2010, pardon, il est 4e cette année. Et celui-ci a même renoncé à participer à la dernière épreuve en Italie, mais il s'est aligné en MX1 et il a gagné l'épreuve. Donc, c'était une bonne résolution de sa part. En MX2, il y a eu 59 pilotes classés et 14 Grands Prix. Alors, les Grands Prix se déroulent principalement en Europe, mais on fait une petite visite.
Ça va être aussi pas mal hein, en motocross. Hein. Ça va jusqu'aux USA.
Les USA et au Brésil.
Et au Brésil aussi.
Et au Brésil, oui.
Et donc, il y a les moyens aussi pour déplacer toutes ces équipes, parce qu'il faut quand même pouvoir... Il faut pouvoir d'abord se rendre là-bas, changer de continent. Est-ce que l'argent est aussi important, présent que sur la route
via la FIM, l'organisateur invite, je crois, les 15 ou les 20 premiers ne payent pas leur voyage.
Les frais, les placements.
Les frais avec les motos.
Ou des tarifs avantageux, peut-être.
Oui, ou bien d'autres, parce que bon, les derniers pilotes doivent payer de leur poche, hein, ça c'est certain. Mais dans quand, par exemple, soit aux USA ou bien au Brésil, il y a moins de pilotes européens qui viennent, et c'est beaucoup de pilotes du coin.
is my guilty of prudence. Won't you let me see your smile of
Bon Guy, on termine ce classement donc du championnat du monde de motocross qui vient de se terminer. C'est terminé quand?
C'était il y a à peu près 3 semaines.
Et c'était où la toute dernière épreuve?
Alors, tout dépend. C'était soit en France pour les MX.
Ah oui, en plus c'était pas en même temps.
C'est pas en même temps.
C'est vachement compliqué en motocross.
Et en Italie pour les MX 1 et 2. Oui, donc il y a à peu près 3 semaines. Hein, voilà. Donc, après les MX 1, 2, donc c'est le 3, c'est l'ancienne classe 500. Et pour la première fois de son histoire, la Suisse a un champion du monde en la personne de Julien Bill.
Tout arrive.
Oui, parce que bon, les Suisses, il faut pas oublier que la fédération, le siège...
Il ne faut pas que du chocolat.
Non.
De la marmotte, là, qui...
ni les montres, ni les chronos, d'ailleurs. Donc il y a eu quand même un Suisse qui a été champion du monde, mais c'était en vitesse, c'était Luigi Taverni, mais ça en 125 ça remonte au déluge. Et puis bonne nouvelle, Milko Potisek termine vice-champion du monde, Potisek qui est de la région de Cassel, et c'était le cousin du regretté.
Ce qui voudrait dire, c'est qu'il est en forme alors, parce que bientôt ce sera la course des sables, hein, qui vont.
Oui, et puis bon,
le championnat de course de sable, hein, il y en a 4 ou 5 de courses.
Là, qui vont commencer dans un mois. Donc, je voulais aussi signaler que dans la presse spécialisée, sans la nommer, des journalistes de salon dénomment le championnat IMX 3 d'amateur. Parce que bon, il y a moins de retombées. Par exemple, c'est pas retransmis en direct par Motor TV, mais bon, en MX3,
il y a très peu d'impact médiatique en fait.
Oui, mais enfin, il faut quand même allumer. Et il faut pas oublier non plus que le MX3, enfin l'ancienne classe 500, était avant porté sur.
Ah oui,
c'était 500, c'était la grosse
cylindrée. Majeur, c'était vraiment ce qu'on venait voir en fait.
Alors il y a eu cette année 81 pilotes classés en MX3 et le dernier pilote, parce qu'on nomme le dernier pilote, c'est un Hongrois, Delcy Balak, qui a 1 point. Et le premier, il faut pas oublier qu'il a quand même 359 points. Quoi. Mais voilà un peu la différence. 81 pilotes, c'est déjà pas mal. Tu parlais des courses de sable qui vont commencer. Ils vont commencer au mois de novembre, c'est-à-dire d'ici un mois et demi à peu près.
19 et 20 novembre, je pense.
Et la première, 18 et 20 novembre, à Longplage. Hein, c'est dans la région. Ensuite, ça sera le 11 décembre à Saint-Léger-de-Balson. Mais bon,
ça, c'est une nouvelle course.
C'est une nouvelle course que je ne...
Un nouveau rendez-vous.
C'est sûrement sur la côte atlantique. Je ne vois pas où ça pouvait être... C'est pas en Bretagne, parce qu'il n'y a que des cailloux, il n'y a pas de sable là-bas.
Ben, c'est un problème.
Voilà. Ensuite, de 2011, nous sommes déjà en 2012 avec le 8 janvier, avec 8 janvier, oui, c'est Graillan l'hôpital, course très connue. Ensuite, Osgore qui va se dérouler le 14 et le 15 janvier.
C'est juste avant le Touquet, en fait.
Le Touquet qui sera...
Et là, c'est la toute dernière.
Le 4 et le 5 février 2012.
When I'm alone in the dark night, I think of them that's passed by. They say to me, boy, don't you worry, don't see you in time be right. We gonna have a party, we gonna have a show, and we're gonna drink.
Sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, aujourd'hui c'est avec Guy Pilarzé qui est surtout le tout-terrain et le classement. Alors on a parlé classement MX1, MX2, MX3, et là tu vas nous proposer le palmarès en 2011 des pilotes français qui se sont classés honorablement,
distingués
dans plusieurs disciplines. Dans plusieurs championnats et plusieurs disciplines en 2011.
En 2011. Alors je te parlais des MX1, 2 et 3, et puis en fin de saison, se déroule le Motocross des Nations qui s'est déroulé cette année à Saint-Jean-d'Angély, qui regroupe à peu près 35 pays à peu près. Et une nation, les USA, gagne assez souvent ce championnat, bien que la France a été déjà championne du monde voici 5 ou 6 ans avec De Maria, c'était en Hollande si je me rappelle bien. Alors cette année, la France a failli monter sur la plus haute marche. Malheureusement, Christophe Courcel déjante, alors qu'il était déjà...
Déjante.
Le pneu...
Ah oui, je pensais que c'était lui qui avait déjanté. Déjanté.
Alors la France fait deux, USA premier, la France 2 et l'Australie 3. Nous passons aux trois roues, Sitercross, toi la miche.
Alors ça, ça doit être infernal. Pire que le rugby.
Moi je t'ai vu en photo là sur
oui.
Un passé.
Ah mais c'était pas Sitcar, c'était de route. Hein.
Mais il faudrait essayer Sitercross.
Si tu veux que je raconte mon expérience, je vais te dire déjà deux tours, j'étais mort. J'ai cru que j'allais sauter en route.
Alors c'est pas dommage, tu vas battre l'équipage.
Alors en cross, je crois que ça doit encore être pire.
Ah ben, l'équipage hollandais, c'est son 8e titre, hein. C'est pas demain que tu vas le battre, alors.
Ah non, c'est impossible.
Bien que Daniel Wilson, c'est le hollandais, lui, il détruit ses singes, hein, assez souvent.
Passager,
hein.
Ceux qui connaissent pas les soucis, c'est
parce que à chaque fois, il les blesse. Soit qu'il prend des hollandais qui veulent plus aller avec lui, donc il prend des Lettonia, parce que c'était moins cher, peut-être.
Ouais.
Donc, 8e titre pour ce hollandais. Premier français, c'est Valentin Giraud et Nicolas Musée qui terminent à la 13e place. En motocross féminin, championnat du monde, c'est une Allemande, Stéphane Hiller, sur KTM, qui remporte ce championnat.
Ça doit être des mammouths, en motocross féminin.
Ouais.
Pilotes de...
Non, ils sont...
Des pilotes de sidecar cross.
Non, des rugbymen.
Ah, j'aurais peur de... Hein.
Et 13e place, c'est une Française, Justine Charroux. Et il ne faut pas oublier que notre championne du monde, Livia Lancelot...
Ah, Lancelot, oui.
Lancelot, oui. Mais ne dispute plus le championnat du monde, dispute que le championnat de France cette année. Donc, on ne voit pas dans le palmarès. Championnat du monde vétéran. Alors, vétéran, c'est les plus de 40-50 ans. C'est un championnat FIM, c'est un Belge qui a amené le bal, parce qu'il s'appelle Pascal Ball, justement. Dixième.
Il est un peu français, hein, puisqu'il est belge un peu.
Ouais, Ball, là, c'est pas vente de bal, non. Dixième, Christophe Lerito, c'est un ancien pilote assez connu. En Supercross, toi, c'est les trucs en stade. Il y a eu 18 épreuves, mais c'est un championnat du monde. 17 épreuves se sont déroulées aux USA et une seule au Canada.
On peut dire que c'est un championnat américain.
Voilà. Ouais. Et le champion, il s'appelle Ryan Villopoto. Et il y a quand même un Français qui termine 19e, c'est Fabien Isoard. Nous passons au freestyle. Alors, tu sais, c'est les.
Je ne savais même pas qu'il y avait un championnat.
Un championnat du monde.
Il y a un championnat du monde de freestyle.
Ah oui. Bon, enfin, c'est plus des cascades, hein, parce qu'il faut des cascadeurs, des figures.
Osées.
Alors, chaque fois, il y a toujours des nouvelles.
Ah oui, c'est le but aussi, hein, c'est de faire toujours plus, plus fort, plus haut et plus de...
Et voilà, et tomber plus haut.
C'est après, il y a le risque.
Alors, c'est un Espagnol, José Mirales, qui est champion du monde. Et troisième, c'est un Français, Rémi Bizoard. En motoneige, parce que motoneige, c'est la fédération, la FIM, qui a pris ça sous son aile. C'est un Suédois, il y a une seule épreuve, c'était en Finlande. Et le champion du monde s'appelle Emil Osman, je vous dis, suédois. Et je termine par les courses sur glace. En individuel, c'est le russe Nicolas Krasnikov. Et par équipe, c'est la Russie qui remporte le titre.
Tu vas me dire, Guy, faire une épreuve de motoneige en Afrique, là, ça va poser
c'est un
problème,
peu difficile. Ah, bien qu'il y a, il y a quand même des montagnes neigeuses.
Ah oui.
Bon. Il y a le Kilimandjaro, voilà.
Drive glide with 440 inches and glass packs too.
Guy, je vais quand même rappeler que la programmation musicale est signée Laurent Roger quand même. Hein.
Ah oui,
on l'a pas dit, on le sait qui, à chaque fois.
Bravo,
c'est qui ce mec-là, on ne sait pas. Hein.
Merci.
Hein.
Il n'y a pas voilà. De quoi à votre service, messieurs dames.
Allez, bon, on termine ce palmarès français donc des championnats 2011.
Des championnats du monde, voilà, et puis un championnat qui s'est terminé hier soir. Hier soir, c'est le Speedway, et ça s'est déroulé en Pologne. Je devais être présent, mais...
Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Mais non, tu avais l'émission aujourd'hui.
Voilà.
Ah, on ne peut pas tout faire, ça va.
Et heureusement que je n'ai pas été, parce qu'au bout de la 16e manche, ça s'est arrêté à cause de la pluie. Parce que s'il pleut, bon, les pilotes sont bâculés de boue, enfin de, c'est pas de la boue, c'est espèce de cendrée, quoi. C'est donc c'est un Américain, Greg Hancock, qui remporte le championnat du monde pour la deuxième fois à 41 ans. Il a été champion du monde il y a 14 ans. Donc voilà. Et le deuxième, c'est Andrea Johnson, et le troisième, Jaroslav Hampel, c'est un Polonais. Du speedway, on passe au long track. Long track, c'est à peu près comme le speedway, mais ça se déroule sur de la terre ou sur de l'herbe. Ils sont au lieu d'être à 4 au départ en speedway, là ils sont 6. Et c'est un Finlandais, Jonas Kilmakorpi. C'est un Finlandais qui...
C'est sûr que c'est pas un Français.
C'est pas un Français, mais le premier Français, il est troisième, il s'appelle...
Ah quand même, il monte sur la troisième marche.
Non mais écoute bien...
C'est passé quand même, c'est le palmarès des Français. Hein.
Il s'appelle Théo Pieper, et c'est un Hollandais, mais il roule sous licence FFM.
Ah donc, d'accord, voilà. C'est un Français alors. Voilà.
En supermoto, parce que supermoto aussi, s'il y a de la piste, il y a de la terre aussi. Et c'est le champion, c'est un Français... Thomas Schareier sur Husqvarna, super motocross des nations. C'est par équipe, c'est la France qui le remporte. Et nous passons maintenant à l'enduro, chose que Philippe va nous décortiquer ça parce qu'il nous revient de Lozère. Hein, il est encore tout bronzé d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, t'as pris de la couleur.
Il n'y avait pas de boue.
T'as pas pris la crème anti-solaire, enfin pas solaire.
J'ai pas eu le temps de m'en appliquer.
Alors, avant de lui donner la parole, je vais donner les Français qui ont été, qui se sont distingués en championnat du monde en enduro. Alors, enduro 1, c'est pareil, c'est l'ancienne 125, disons. C'est le Français Rodrigue Ten qui termine quatrième. En enduro 2, il y a un champion du monde, c'est Antoine Méo. C'est pas comme le café, hein, Méo, non. Sur Husqvarna. Et en enduro 3, c'est la classe 500. Christophe Nabotin sur Gaz-Gaz est vice-champion du monde. Et en féminine, championne du monde pour la deuxième fois, Lulu, plus connue sous le nom de Ludivine Pouy. Donc on va passer la parole à Philippe qui a vu tout ce beau monde là-bas. Et sans oublier le nouveau ministre des Sports. Enfin, c'est le cinquième ministre des Sports, je ne sais pas combien de temps. Il va être ministre, mais...
Normalement, jusqu'à la fin du mandat.
Jusqu'à la fin du mandat.
Alors, Philippe, je ne savais pas d'abord, avant tout, que tu avais fait du motocross.
Ouais, enfin, j'en ai fait en tant qu'amateur, hein, sans plus. Hein.
Ah, t'as pas fait de course en ligue ou en championnat
Non, j'avais pas le
talent. Quelles sont les machines que tu as possédées?
Oh, j'ai eu du deux temps. La toute première, d'ailleurs, quelqu'un va s'en rappeler, c'est une CZ250.
Ça marchait bien, ça. C'était
oui, ça marchait bien.
Les pilotes
c'était...
de motocross
tournaient
beaucoup de ces machines.
Off, ça. Hein.
CZ, c'était les concurrents là, Husqvarna, parce qu'il y avait ces deux marques.
À l'époque,
là,
oui, exactement.
Qui...
Ça remonte.
C'était une 125.
250.
250.
250. Ouais. Et après, je suis passé au trail. Après, je suis revenu au motocross. Après, je suis repassé au trail. Donc, j'étais entre les deux, quoi. Mais ça reste à peu près la même famille, disons.
D'accord. Donc dimanche dernier, c'était donc la fin du championnat d'enduro. Hein.
La finale
donc,
du championnat
la finale.
Du monde d'enduro.
Je sais pas, il y a combien de courses en tout dans ce championnat.
Il doit y avoir 8 grands prix.
Et qui se situent en Europe aussi ou
ça va, beaucoup en Europe. Il y a, d'après ce que j'ai pris comme note, en Turquie, Grèce, Espagne, il y a eu un grand prix en Andorre, en Italie. Parce que les Italiens sont très forts aussi en enduro. Ils ont eu pas mal de champions du monde.
Mais très tricheurs, hein, les Italiens.
Ouais, enfin, on peut dire ça. De toute façon, je crois que ça doit encore péricliter à l'heure actuelle. Hein, les systèmes démerdent, disons. Faut pas accuser.
Ça doit encore être un petit monde assez sympa. Y a pas,
ouais, c'est vachement convivial.
L'argent ne coupe pas à flot dans
l'enduro aussi. Matériel, si, quand même. Ouais, je crois qu'ils sont aussi...
Des pilotes abordables, on peut peut-être...
Absolument. Les rencontres dans la rue, quand ils viennent justement présenter la machine au parc fermé ou les contrôles sonomètres et autres, On peut discuter avec eux, on peut leur parler facilement. Ouais. Avoir des autographes, prendre une photo, c'est impeccable.
Écoute, je te propose de passer un morceau de musique. Après, nous expliquera un petit peu. Enfin, je te propose de nous expliquer un peu comment se déroule une épreuve d'enduro.
Ok.
Just one woman, but I can't stay satisfied. Devil tugs at my left hand, but the Lord is a hold of my right. The devil tugs at my left hand, but the Lord is a hold of my right. Smell trouble, but I just can't see the light. Oh no!
La moto, c'est le dimanche de 11h à midi sur Radio Campus Lille 106,6. Aujourd'hui, on parle de motocross, de moto sur glace. Et ici, on parle d'enduro avec Philippe Tillman qui s'est rendu le week-end dernier donc à la finale du championnat du monde d'enduro qui s'est déroulé donc à Mende, qui était organisé par le motoclub lausérien.
Oui.
Un plateau, donc Mende, moi je connais un peu là-bas.
Très belle région.
C'est une belle région.
Absolument. Ouais, c'est... Déjà, rien que le fait d'y aller, c'est déjà intéressant. Et puis, j'ai passé trois ou quatre jours là-bas. Mais il faut s'organiser pour voir ce type de.
Ah, tu m'as dit que c'était pas assez. Trois jours, c'était pas assez. Il faut arriver à
c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. Je suis arrivé du mercredi soir, là, jeudi, vendredi. vendredi, samedi, ouais. Et donc le vendredi, tu fais le tour du parc à la recherche des pilotes, les voir arriver au contrôle pour les machines, et surtout déterminer l'endroit où se trouvent les spéciales pour
voilà, il faut que tu nous expliques un peu comment, voilà. Comment ça se passe.
Un enduro.
Et les spectateurs vont où en fait sur un enduro? Parce que c'est sur un long parcours, c'est sur 45 km, je crois.
Oui, tu peux aller parcours, partout hein. Sur un enduro. Tu peux aller au départ parce que c'est copié sur de type automobile.
Mais tu fais comment en 45 km à pied? C'est pas possible.
Ah non.
Ça marche comment?
Non, tu fais en moto. Hein. C'est pour ça que
la route est ouverte alors.
Ah oui, la route est ouverte. Les gars démarrent, vont jusqu'au spécial et là ils doivent respecter.
Donc tu roules en même temps que les pilotes?
Oh, tu peux les croiser,
tu peux les croiser, ils peuvent te doubler.
Ouais, absolument. Ouais. Un peu comme le Dakar, c'est pareil. Et donc là, il faut s'organiser, repérer les spéciales. Ils font
oui, c'est là que c'est intéressant, c'est la spéciale, c'est là que en fait, il y a un temps à faire.
C'est un temps à faire. Et le meilleur, gagne les spéciales et ainsi de suite. Et puis s'il perd pas de temps entre les spéciales et pas de problème entre les spéciales, problème mécanique ou autre. Hein. Ça peut être n'importe quoi, ou même avoir un problème, je dirais, avec la maréchaussée, puisqu'il doit respecter la législation en cours.
Donc, c'est pas un parcours fermé, là.
Ah non, c'est pas un parcours fermé. Hein.
D'accord. Même les spéciales.
Les spéciales, fermé. Ouais, oui. Ouais. C'est un parcours fermé. C'est un petit circuit dans la nature.
Fait combien de kilomètres?
J'ai pas regardé, franchement.
Ça fait.
J'ai pas regardé, mais si tu ferais. Parce qu'ils font 4 tours par jour. Donc si tu les suis, tu n'arriveras pas à les suivre. De toute façon, c'est pas possible. Le temps de regarder la spéciale, de se repérer sur la spéciale, de prendre des photos aussi.
Et puis après, parce qu'il faut aussi rappeler que tu es un grand photographe.
Hein. Oh, grand. Hein. Par la taille, peut-être.
Si tu es grand, tu mesures 2 mètres. Ouais.
Le choc des photos. Pas le poids des mous, hein, je fais pas ça. Non, mais c'est vachement intéressant. Mais c'est le deuxième Grand Prix d'enduro que je vais voir. Sinon, j'étais plus.
Ce qui prouve que ça doit être très intéressant.
Ouais, c'est prenant. Fois, absolument, hein, c'est prenant. Hein,
ouais. Et donc le soir, l'ambiance.
L'ambiance, tu te retrouves. Moi, j'ai campé, donc tu retrouves des gars. Comment je peux dire? J'ai rencontré des gars que j'avais vus les années précédentes, ou même quelquefois 2 ou 3 ans. Tu reconnais pas un gars, il vient te serrer la main, il me dit, tu te souviens, je t'ai vu là-bas, ouais, c'est possible.
Et tu te balades entre les paddocks,
Oui, il n'y a aucun problème. C'est pas comme en cross, hein, c'est pas. C'est
payer.
Plus ouvert.
Il faut payer pour rentrer dans les parcs. Non, mais en cross, championnat du monde, hein, je parle.
Certains grands prix, comme le fameux.
Saint-Jean-d'Angély.
Ouais. Le motocross de Nation, c'est d'ailleurs. Absolument impensable d'en arriver à ce point-là, mais bon.
Et combien il y a de pilotes en tout, alors, qui disputent le championnat d'Europe? Ils sont quand même...
D'enduro,
quoi.
Oh, je n'ai pas compté, mais bon, il y en a de moins en moins. J'ai vu que sur une classe, il y avait pas 20 pilotes. Et en féminine, il doit en avoir une douzaine, quoi, maximum. Mais bon, il faut quand même... Je dirais dire cocorico, parce que depuis 4 ans, on a 4 champions du monde, avec Johnny Aubert 2 ans et Antoine Méo 2 ans.
Ouais, Johnny Aubert qui s'est blessé d'ailleurs.
Il s'est blessé assez gravement, ouais. Il était là en tant que spectateur à Mende.
D'accord. Johnny Aubert qui vient de la région de Maubeuge, hein, je sais
dire. Qui est le neveu de Jean-Jacques Bruno.
Voilà.
Ouais, exactement. Ouais. Et on a aussi le Divine Peace, c'est la deuxième année consécutive à gagner un championnat du monde.
Il y a un classement féminin, il y a une.
Ouais.
Je pense que c'est séparé quand même.
Une catégorie. Ouais.
Catégorie
féminine, oui. Ouais. Ouais, c'est exactement les mêmes parcours, les mêmes difficultés.
D'ailleurs, ils
donc, il faut que tu nous expliques un petit peu le nombre de catégories.
Hein, maintenant,
on ne dit plus la cylindrée, on dit 1, 2 et 3, je crois, apparemment, en enduro.
Oui, ça dépend justement. Il y a E1, E2 et E3. En E1, les deux temps sont de 100 à 175 et les quatre temps de 175 à 250. Et en E2, les cylindrées en deux temps 175 à 250 et en quatre temps 290 à 450. Et en E3, les deux temps 250 à 500 de temps, ce qui n'existe plus d'ailleurs en 500, et en quatre temps de 475 à 650.
Donc il y avait une catégorie féminine et une catégorie masculine.
Oui, mais la catégorie féminine, c'est cylindrée libre. Et le championnat du monde junior,
cylindrée
libre.
Ça a des avantages. Les pilotes qui ont une 125 ou...
Ça veut pas dire. Hein.
Non.
Je pense pas, non. Parce que c'est sûr, dans des spéciales rapides, il vaut mieux avoir des chevaux, mais il faut les passer au sol. Mmh. Ça, c'est plus difficile. Maintenant, je dirais que, bon, en tout terrain, quelquefois, une machine maniable et qui a assez de chevaux, ça passe bien sans fatiguer le pilote.
Alors, on dit, donc, enduro, le terrain, c'est quoi? Parce qu'on voit bien un motocross, c'est des buts, hein, il faut surtout...
Ouais.
Et l'enduro, c'est quoi? C'est du chemin avec pavé?
Non, l'enduro. Ou... L'enduro, ils ont des spéciales qui sont, comment dirais-je... déterminé par le motoclub, c'est pas le bon mot, mais je cherche, m'excuse.
Ouais, préparé, quoi.
Préparé par le motoclub. Donc, on peut avoir des spéciales en prairie, des spéciales en sous-bois, des grimpettes, des tas de trucs, des pierriers, des passages dans des rivières, des passages où on recherche la difficulté sans avoir trop de dangerosité.
Oui, parce que ces motos sont pas prévues pour... pour escalader des buts ou alors des...
Si, ce sont des motos spécifiques. D'ailleurs, je crois que la mécanique, elle en prend plein la tronche, pour être poli, quoi, parce que ça doit être vachement cassant par endroit. Hein.
Alors, quelles sont les marques les plus représentées dans ce championnat?
Les plus représentées, c'est Husqvarna, KTM, Gaz-Gaz, TM.
C'est marrant, c'est qu'il y a donc apparemment pas de moto japonaise.
Si, des Yamaha, des Honda. Ouais, ouais. Il y a un gros team italien, Zanardo, qui prépare des Honda, dans lequel se trouvent d'ailleurs la plupart des champions du monde, comme Salminen. Il y a Aholo qui est sur Husqvarna. Aholo, il faut le dire, c'est le 8e titre.
Un Finlandais, toujours.
Ouais. 8e titre de champion du monde. C'est le record absolu pour l'instant. Et Salminen, et lui, c'est le 5e titre d'affilée. Pour un pilote de 38 ans.
Qui gagne ce championnat,
ouais,
du monde
c'est
d'endurance.
C'est le plus vieux champion du monde.
Ouais. D'enduro.
Et en exercice. Ouais. Et en exercice. C'est assez rare, ça.
Et tu connais un petit peu les primes, ce que gagne le premier
qui
gagne le championnat?
Non, je ne saurais pas dire ça.
C'est vraiment... l'enduro, tu vois, c'est un peu à l'image des médias, quoi. C'est, comme ce n'est pas très connu, il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans.
Même sur Eurosport, hein, c'est très rare d'avoir un enduro. Hein,
sur Moteur TV, on voit quelquefois des épreuves. Ça arrive qu'on voit des épreuves.
Oui, j'en ai moi déjà vu par le passé. Mais bon, ça demande trop de moyens. Pour filmer un enduro, ça demande énormément de moyens, hein, parce qu'il faut être partout à la fois. Si tu veux suivre les meilleurs et faire un bon résumé, à mon avis, ça demande énormément de temps, de personnes physiques, entre guillemets, pour se retrouver sur toutes les spéciales, les départs, avoir une idée de... C'est un gros boulot. Déjà, rien que faire la photo, c'est... on court partout, quoi.
Donc tu nous as fait des belles photos.
Bah,
encore une fois.
Bon, encore une fois.
Qu'on va avoir.
On peut les mettre sur le forum.
On va avoir, parce que je me souviens que tu dois nous donner des photos d'une...
Des vigeants, oui, exactement.
Voilà.
Bon, mais ouais. On me les réclame, mais on vient pas les chercher.
L'émission se termine, Philippe.
On peut passer un petit coucou à Tinchon, qui doit nous écouter.
Ouais.
Et que lui aussi, avec lui, j'ai commencé la
coucou,
bécane.
Tinchon.
Très jeune. Alors, ouais. J'espère qu'il écoute.
Un conseil, mais vite fait, si par exemple l'année prochaine, tu as donné envie à certains auditeurs de vouloir se rendre
au
championnat 2012.
J'ai pas de planning, mais bon.
Mais donc il faut aller 2 jours avant, 3 jours avant. Hein.
Ah ouais, pour s'organiser, voir où se trouvent les spéciales et après aller discuter avec les pilotes, quoi, parce qu'ils sont vachement ouverts.
Très bien. Ben, Philippe, merci d'être venu aujourd'hui expliquer ta petite aventure là. Bon, Guy, nous, on se retrouve le mois prochain.
Le mois prochain.
Je ne sais pas quelle date c'est, mais ce sera de toute façon le deuxième dimanche.
Deuxième dimanche, hein. Oui, voilà.
Voilà, eh bien, l'émission se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on vous souhaite un bon dimanche. Philippe, Guy.
Salut.
Au revoir.
Merci, salut. Dans un mois.